Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, comme elle a encore résisté une semaine de plus, et puis nous voici donc à la veille de Noël, toujours en vie, toujours sur Terre, tout va bien. Alors, pour ouvrir cette lune, cette avant-dernière émission de l'année, on traite un sujet en profondeur, pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc, parce qu'on va parler des grands fonds, on va parler de l'océan dans sa plus grande profondeur et puis surtout sur ses plus grands enjeux, parce que, faut-il le savoir, l'océan est à la source de beaucoup de convoitises. Donc on en avait parlé déjà. Donc pour en parler de ce sujet-là, donc on a fait appel à un spécialiste, à Olivier Lascar, qui est donc spécialiste. Il est journaliste. Alors bon, comme on connaît un petit peu le métier, quand on est journaliste, on est un peu spécialiste de tout. Mais
on peut être
surtout des sujets qu'on a bien traités. Donc ouais. Effectivement, Olivier a bien traité ce sujet-là puisqu'il en a produit un bouquin. Donc les abysses, l'ultime frontière, et ce qui donne le ton un peu à notre émission. Puisque,
aux éditions
c'est la dernière exploration, les menaces sur les océans. Et donc pour nous accompagner dans cette exploration, eh bien, on a aussi appelé notre spécialiste océanographe, Nicole Keane, notre habituée du sujet avec qui on monte nos émissions sur l'océan. Alors peut-être que Nicole, tu nous entends ?
Oui, je vous entends, bonjour.
Ah, salut Nicole. Bon, donc voilà.
Bonjour,
bon,
Nicole.
Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de descendre dans les abysses, on va passer la parole à Ben qui nous a préparé forcément une chronique aux petits oignons sur la vision internationale de l'écologie.
Oui, enfin, je suis très, très gêné quand même, parce que face à des grands experts,
ouais,
je ne suis qu'un débutant sur la question. Bon, il se trouve que j'ai suivi quand même la
on
conférence.
On ne demande pas de nous raconter ta vie, on nous demande
mais
nous expliquer, de chroniquer le sujet.
Ce qui est intéressant, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même le plus grand écosystème de la planète.
D'accord.
Et il y a un deuxième phénomène qu'il faut prendre en compte, surtout en tant que journaliste, c'est l'accroche actu. Et il se trouve que en 2020 ou 21, ça a démarré la décennie de l'océan. Je parle sous ton contrôle.
Ouais, c'est ça. Hein,
bon, t'es encore bon, ça va, continue.
Donc, bon, alors, maintenant,
qu'est-ce que t'as glané sur le marché de Noël pour alimenter ta chronique ?
Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que au fond, les océans, d'ailleurs on ne devrait pas dire les océans, on devrait dire l'océan.
On dit l'océan depuis qu'on s'est fait reprendre par notre invitée Corinne Copin,
qui nous avait bien
expliqué qu'il n'y avait qu'un seul océan, que tout était relié.
C'est vrai
donc
qu'à l'école, à l'école, on apprenait qu'il y en avait 5.
Oui, c'est ça.
Mais
oui.
Bon, donc il faut se recycler.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est en même temps le concentré de toutes les extrêmes. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on a à la fois, on a depuis 1970, on peut dire que c'est considéré comme patrimoine mondial de l'humanité. Et d'ailleurs, je pense que, vous ne le savez peut-être pas, mais 2749, ce n'est pas un numéro du loto. 2749, c'est une résolution des Nations Unies qui date de 1970. Oui, ça fait
ouais,
déjà
vas-y.
Certain moment. Et cette résolution, elle dit justement que, elle affirme, elle essaie de garantir comme quoi tout ce qui est fond océanique, ça fait partie du patrimoine
commun de l'humanité.
Commun de l'humanité.
Je l'ai lu dans le livre d'Olivier.
Non, c'est intéressant parce que j'ai dû, sans avoir eu la chance de lire ce livre, je suis remonté jusqu'à 1970.
D'accord.
1970, c'est l'initiative de Malte, du gouvernement de Malte, qui propose effectivement qu'il y ait une résolution là-dessus. Et c'est assez intéressant parce qu'il est question, à l'époque déjà, de la démilitarisation des océans.
D'accord.
Tu sais que c'est mon dada. Mais
ok. Bon.
Alors justement, pour parler de ce côté, de cette coalition des extrêmes, il suffit au fond de rempiler les différentes destructions qui ont lieu, que ce soit sur la question du plastique, donc ça on est un peu au courant du nombre d'un million de mammifères qui sont foutus en l'air, de 100 000 oiseaux qui sont également détruits par les plastiques, mais il y a toute la question aussi des explosions nucléaires, y compris d'ailleurs des explosions qui sont pas atmosphériques, qui sont des explosions océaniques. Et d'ailleurs, les Polynésiens disent souvent que les essais nucléaires français étaient des essais océaniques. Et puis, il y a la question tout simplement des gens dont on se débarrasse dans les océans. Et là, il y en a quand même, moi j'ai calculé, mais ce n'est pas un calcul très scientifique, mais ça représente quand même la disparition de 33 220 êtres humains depuis 2014. Donc ça fait quand même pas mal. Et alors, il y a une autre histoire qui est intéressante, c'est comment on nous a fait comprendre, mais ça on y reviendra tout à l'heure, c'est sur l'extraction de certains minerais au nom de la transition énergétique.
Voilà.
Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant, mais ça, on y reviendra aussi.
Moi,
c'est comment la France...
Je crois que c'est le cœur du livre d'Olivier.
Comment la France a viré de bord sur cette question-là. Entre 2012, où la France disait qu'il fallait absolument utiliser ces minerais et que ça faisait partie d'une des grandes ambitions de la France. C'était le fameux rapport de Madame Lauvergeon, Atomic Anne, comme on l'appelait aux États-Unis. Donc voilà, je voulais juste...
Introduire le sujet
voilà.
À ta manière.
À ma manière.
Bon, bah c'est formidable. Donc Olivier, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors effectivement, alors moi pour ce qui m'a frappé dans la lecture de ton livre, un truc très simple, c'est 12-4. Alors toi tu parlais de 72-20 ou je ne sais plus combien.
27-49.
Eh bien Olivier nous a lâché un 12-4. Alors c'est pas un score de résultat sportif, c'est le résultat du match entre la Lune et les océans. 12 hommes ont foulé le sol de la Lune et 4 seulement ont été s'aplatir sur le fond des abysses. Ouais. Et donc, c'est vous dire...
Il n'y a pas de femme dans cette histoire.
Alors, bah... c'est un score en évolution.
Voilà.
Parce que mon livre est sorti en 2023.
Ouais,
2023.
Il y a 2 ans.
Et s'agissant de ce sujet qui est quand même assez intemporel... Je dirais, pour rassurer les auditeurs et mon éditeur, que le livre reste d'actualité. Mais sur ce point-là, très particulièrement, la donne a changé.
Ah oui, on est passé à combien alors ?
Alors, on est en tout cas au-dessus de 4. Dire précisément combien, je ne peux pas le faire, parce que les Chinois, maintenant, sont dans l'histoire. Et les Chinois ont communiqué sur le fait qu'ils avaient mis au point... des sous-marins de poche capables de plonger jusqu'aux points les plus profonds
de la fosse des Mariannes.
En l'occurrence, la fosse des Mariannes. Parce que quand j'écris qu'il n'y a que 4 personnes qui sont allées au plus profond de l'océan, je parle de la fosse des Mariannes, 11 km de profondeur, 11 000 mètres, c'est le point le plus profond de la planète. Aujourd'hui, on sait que les Chinois...
Ils sont allés, mais ils n'ont pas dit combien.
Ils n'ont pas dit combien.
Mais ils sont allés, ils se préparent aussi à aller sur la Lune. Donc la compète.
Il y a beaucoup de symétrie. Il y a beaucoup de symétrie entre la question spatiale et la question des grands fonds. Hein.
Mais
c'était pour très régulièrement.
Je dirais que moi j'ai retenu de ce score qui est facile à mémoriser quand même, qui a au moins ce gros avantage, c'est que on connaît plus quand même l'espace que les fonds marins.
Voilà, ça reste d'actualité. Voilà. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors, évidemment, c'est vachement troublant puisque la Lune
est à
300 000 km de distance versus les 11 km qu'on vient de citer.
Et encore, c'est très localisé, la fosse des Mariannes.
11 km, c'est très localisé. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 3 800 mètres. D'ailleurs, de façon complètement, c'est un hasard total, mais 3800 mètres, c'est la profondeur à laquelle gît l'épave du Titanic. Les abysses, ça commence grosso modo à 1000 mètres de profondeur. En tout cas, la distance est bien plus proche. Mais ça reste un environnement d'une très grande dangerosité pour l'espèce humaine. Hein. On n'est pas fait pour aller dans la grande profondeur. Et ça, il y a une catastrophe somme toute récente, oui. Hein, qui l'illustre tragiquement. C'est la catastrophe du sous-marin le Titan. Vous vous souvenez du Titan? Le Titan, c'était en 23 aussi. Hein. C'était en 23. Là aussi, ça répond. Il y a une résonance.
C'était un sous-marin un peu bricolé, non ?
Alors, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'était un sous-marin...
Fait main, quoi.
C'était un sous-marin d'une entreprise privée qui entendait proposer une forme de tourisme de l'extrême, qui était le tourisme de la grande profondeur.
Comme Bezos envoie ses touristes dans l'espace.
Voilà, très précisément, c'est ce type de résonance qu'on va trouver tout le temps entre la question spatiale et la question des grands fonds. Et donc, le Titan, c'était le nom de ce sous-marin, et il plongeait à grande profondeur avec à son bord, je crois qu'il y avait 5 passagers lors de la dernière plongée, la plongée funeste du Titan. Il y avait 5 personnes à son bord.
Dont un scientifique français.
Alors, dont un scientifique, un ancien de l'Ifremer, M. Nargelet, qui était un vétéran des plongées en grande profondeur, qui était un très grand passionné du Titanic, qui a fait un bouquin de référence sur l'épave du Titanic. Donc, c'était quelqu'un d'une grande envergure scientifique et humaine. Hein. Ça n'attirait pas n'importe qui, c'est ça que je veux dire, hein, quoi, ce Titan. Mais en tout cas, l'idée, c'était de, moyennant une finance, un billet, un ticket d'entrée extrêmement élevé, on allait faire une plongée sur le Titanic. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le Titan a implosé à peu près à 3000 mètres de profondeur, parce que dans ces profondeurs-là, il règne une pression qui est extraordinaire. Pour les besoins du bouquin, j'ai interviewé plein de personnes qui sont des scientifiques, des spécialistes de la grande profondeur. Et il y a notamment un monsieur qui s'appelle Michel Segonzague, qui est lui aussi un vétéran de l'Ifremer et du Muséum national d'histoire naturelle, qui a fait de nombreuses plongées avec des sous-marins scientifiques plutôt dans la région... Non, un peu partout en fait. Il taille dans le Pacifique, il taille dans l'Atlantique. Et il me disait, écoute, si tu veux avoir un ordre de grandeur, quand tu es à 4000 mètres de profondeur, c'est comme si tu avais le poids d'une vache qui repose sur chaque centimètre carré de ta peau. Alors, bon, évidemment...
Ça fait beaucoup de vaches.
Ça fait beaucoup de vaches et c'est vache comme traitement, quoi. Hein. Mais donc, le sous-marin qui va à ces profondeurs-là, s'il n'est pas... hermétique absolument, s'il n'est pas construit...
Oui, il y a un métal spécial pour...
Il faut que ce soit...
Du titane, je crois.
Un équipement de très grande précision, quoi. Hein. Et là, il était déficient, et je crois que c'était au niveau des hublots.
Oui, il me semble.
Donc, il a implosé. Donc, cette catastrophe, elle rappelle que c'est un environnement qui est dangereux.
D'accord. Et pourtant, le premier bathyscaphe qui est descendu, c'était il y a 65 ans.
Oui, oui, oui. Et c'est d'ailleurs...
avec Picard, un Suisse.
Oui, oui.
Qui a été bien entraîné dans le lac de Genève. Et
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
La plongée, elle a été assez aventureuse aussi. Hein,
oui.
Parce que le récit qui en est fait et qu'on retrouve assez facilement sur le web... c'est qu'à un moment donné, ils ont entendu tous les deux là un clong. un clong. Alors un clong, ça fait pas plaisir, mais un clong quand on arrive à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, ça angoisse quoi. C'était un hublot. C'est un hublot qui a joué. Et comme il y avait un système de double épaisseur qui permettait de protéger un petit peu l'intérieur de l'habitacle de l'extérieur. La partie qui a été dégradée, ça s'est pas propagé au reste, quoi. Donc ils ont pu plonger jusqu'au bas de la fosse, ils ont pu remonter, mais cette plongée là, elle a déjà été un petit peu aventureuse, quoi.
D'accord. Donc elle n'aurait pu ne jamais avoir lieu, quoi.
Ils auraient pu ne pas remonter.
Oui.
Je voudrais pas que vous contentiez de parler de quelques accidents, quand même, dans cette grande aventure.
Non, effectivement, mais c'est juste pour indiquer le, comment dire, le côté totalement inhospitalier de, ouais, des grands fonds.
C'est pour expliquer qu'on arrive à un point où aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, on connaît moins bien cet environnement que la surface de la Lune.
Voilà. Et pourtant, on s'apprête à aller l'exploiter. Donc il y a des prédateurs qui imaginent qu'ils vont pouvoir probablement faire fortune. Sauver la planète, ça ne les intéresse qu'à moitié. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement un paquet d'opportunistes. Bon, on en connaît quelques-uns. Et puis d'ailleurs, notre cher ami Trump a signé un décret récemment pour autoriser ce qu'on pourrait considérer comme un sacrilège. Parce qu'Olivier, tu pourras me le dire, mais parce que le fond marin, donc là, on remonte un petit peu, donc on revient sur à peu près 6000 mètres de profondeur sur les grands plateaux, c'est les grandes surfaces de la mer où on trouve ces fameux minerais, les nodules polymétalliques,
il faut commencer par les nodules parce que c'est ceux dont on parle le plus et puis finalement
on
c'est
en parle
plus...
depuis longtemps. Je crois que mon souvenir à l'école moi-même, c'est vieux quoi.
Il me semble que les nodules, on a découvert leur existence à la fin du 19e siècle. Hein. Aujourd'hui, on en a des images qui ont été filmées par justement ces expéditions en grande profondeur vers ces plateaux qui peuvent être effectivement autour de 4000 mètres de profondeur. Il faut imaginer la morne plaine, quoi. Hein. C'est vraiment une plaine à perte de vue, mais qui est recouverte de sortes de patates. Hein. À l'Ifremer, ils appellent ça des patates. Ça ressemble à des patates, c'est des galets, qui sont composés de métaux et qui se sont formés depuis que les océans existent, en fait. Hein. Par accumulation progressive sur des millions d'années.
C'est même des milliards d'années.
Le milliard, c'est l'âge de la Terre, mais il faudrait remonter à l'âge de l'océan profond.
L'âge de la Terre, c'est 4 milliards, 4 milliards 5, et les océans profonds, j'avais cru comprendre que c'était autour de 2 ou 3 milliards.
En tout cas, ça se passe. Le début de l'histoire date de la naissance des océans.
Ce dont on parle, c'est quand même les témoins de la plus vieille existence, d'un objet de notre planète, quoi.
Oui. Et alors, donc, dans l'eau, de façon dissoute, il y a des métaux, et ces métaux se condensent, s'agrègent autour d'un petit noyau qui se trouve naturellement là.
Comme les perles dans une huître.
Voilà, oui. Alors on peut imaginer, ça peut se passer autour de dents de requin, par exemple, hein, une petite dent, et puis les matériaux s'agrègent, et de millions d'années en millions d'années, à la fin, on a une patate. Et ces patates, aujourd'hui, on sait qu'elles sont composées de manganèse, de fer, de cobalt, de cuivre,
antimoine.
Et puis dans certaines proportions, de terres rares, etc. Donc on les connaît depuis longtemps, hein. On sait depuis longtemps qu'elles existent, mais aujourd'hui on les regarde avec un œil plus concupiscent qu'avant, parce qu'effectivement on est dans le contexte de la transition énergétique.
Donc c'est ça qui a ravivé l'intérêt.
C'est ça qui a accéléré le processus de tous les...
Oui, complètement, parce que la problématique à l'heure actuelle...
Les prédateurs, disons.
Oui, c'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, la problématique, c'est qu'il faut équiper l'entièreté de la planète avec des batteries, avec des aimants sans lesquels les éoliennes ne peuvent pas fonctionner, avec les éléments qui composent tout l'électronique qui nous entoure. Et certaines voix s'élèvent en disant on ne peut pas compter sur les mines terrestres qui sont déjà connues et qu'on exploite depuis si longtemps, donc on les a déjà essorées jusqu'à la trame. Il faut aller voir ailleurs.
Puis elles sont surtout en Chine.
Alors il y a ces problèmes, c'est un problème réel, hein. Elles sont en Chine, elles sont en République démocratique du Congo... qui n'est pas très démocratique. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que on se repose sur des pays qui peuvent nous faire une sorte de chantage économique, quoi, en quelque sorte, hein. C'est une question de souveraineté. Donc si la France, en l'occurrence, avait un permis d'exploitation de richesses minières dans la grande profondeur, dans des eaux internationales, eh ben, ça pourrait nous arranger, quoi. Parce que ça pourrait nous fournir en matière première.
D'autant qu'on a, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le bon bouquin, hein, ouais. On a un champ de plusieurs millions de kilomètres carrés qui...
Là, il faut rentrer un peu dans la découpe du territoire, si je puis dire. Hein. La France, c'est le deuxième pays maritime au monde. À cause de nos côtes et
de nos colonies.
Grâce à nos territoires d'outre-mer. Ça nous met dans une situation où on a, je crois, 11 millions de kilomètres carrés de côtes. On est en deuxième position après les États-Unis. Donc ça veut dire qu'on a la main sur les richesses de la colonne d'eau et du sol et du sous-sol de ces eaux territoriales. Mais après, il y a aussi les eaux internationales.
Mais il faut dire aussi que d'un point de vue du droit international, on ne peut pas démarrer comme ça demain matin et on ne peut pas avoir un vrai contrat. Alors, il y a quand même la IMF.
Alors, on va y venir.
Oui, là, il faut parler de l'IUCN qui a demandé un moratoire. Les scientifiques sont quand même d'accord au niveau international. Il y a un moratoire qui a été renforcé suite à l'UNOC en juin à Nice en France. Et il y a 40 pays maintenant qui ont signé ce moratoire et qui ont écouté les scientifiques qui se rendent compte des dangers, des risques pour l'écosystème et pour toutes les espèces qui vivent au fond de la mer. Parce que malgré les conditions extrêmement difficiles de vie, il y a énormément de vie dans ces zones. Et c'est de ça qu'on doit parler aussi, c'est que ces vies, on ne les connaît pas. On a étudié qu'un tout petit pourcentage de la biodiversité des grands fonds. Et donc, il faut penser à ne pas détruire quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est extrêmement dangereux. Donc, il faut parler de ce moratoire ça bouge beaucoup, là. Parce qu'avant l'UNOC, il y avait à peu près 30 pays qui étaient d'accord. Maintenant, il y en a 40. Donc, c'est un sujet qui... évolue beaucoup au niveau international.
J'étais resté à 37, mais c'est bien, Nicole.
Oui, il y en a 40 maintenant. Ouais.
Mais ça ne suffit pas, 40.
Et puis, il y a deux situations différentes. Ça évolue beaucoup.
Il faut aussi parler de l'inégalité entre le Sud et le Nord. Je pense qu'il faut aussi dire qu'il n'y a que très peu de pays riches qui sont capables d'accéder à ces richesses et énormément de pays pauvres qui n'en sont pas capables. Et ensuite, il y a plusieurs sortes de richesses. Il y a les richesses minières, mais il y a aussi les richesses génétiques, biologiques. Qui sont potentiellement source de beaucoup de découvertes scientifiques au niveau de la santé, au niveau médical, qui sont potentiellement très, très valeuses. Et il n'y a pas de raison que cela ne soit que les pays du Nord qui en profitent. Donc, il y a beaucoup de sujets très profonds là qui sont liés avec cette exploitation des grands fonds.
Mais Nicole, on va essayer de finir de dresser le paysage et puis après on verra comment ça s'articule d'un point de vue politique et puis en quoi nous Français, pas forcément tous sur le bord de mer, on est concernés. Mais peut-être qu'on va faire une pause musicale et puis on va accorder nos violons pour mettre ça dans le bon ordre. Merci Nicole, à tout de suite.
Aligre FM 93.1. Thank you.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie, au fond de l'océan, avec Olivier Lascar et puis Nicole King au bout du fil. Et on était en train d'effectivement de trouver le pourquoi il y a urgence, alors que Belle vient de nous expliquer que le moratoire existe depuis longtemps, et que c'est de 70, et vient de nous faire une leçon d'histoire incroyable. Et puis Olivier nous explique que quand même, c'est un peu plus chaud que ça, parce que effectivement, même si le contexte est un peu complexe, malgré tout, il y a un point de bascule qui peut être franchi et certains pourraient. On a déjà donc vu Donald Trump vouloir aller plonger pour récupérer les minerais, mais c'est plus une vue de l'esprit, ça peut se faire. Donc voilà, Olivier, explique-nous les détails, comment cette mécanique diplomatique et juridique est en train de se mettre en place.
Alors on décrivait tout à l'heure qu'il y a une zone économique exclusive qui va jusqu'à un certain nombre de kilomètres au-delà des côtes.
Oui.
Mais quand on dépasse cette limite de la zone économique exclusive, on est dans les eaux internationales.
Donc le Far West.
Donc le Far West, parce que en théorie, tout le monde peut y faire ce qu'il a envie de faire. Alors pour que justement ça ne dérive pas sur une forme de Far West, il y a de ça quelques décennies, il n'y a pas si longtemps, 1982 pour la convention de Montego Bay et le début des années 90 pour la création de l'institution internationale qui s'appelle l'AIFM. Cette AIFM, elle a été créée...
Association internationale des fonds marins, c'est ça ?
Oui, c'est LISA, l'acronyme anglais.
Elle est en Jamaïque.
Et la mission de l'AIFM, c'est d'organiser l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Alors, l'exploitation de quoi ? Des minerais dont on a parlé. Il y a les nodules, mais il n'y a pas que les nodules. Il y a d'autres sites dans lesquels il y a des minerais d'intérêt. Or, l'AIFM a d'ores et déjà établi un certain nombre de règles, dont le fait que les richesses minières du fond des océans sont patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui veut dire que les revenus éventuels qui pourraient être dégagés de l'exploitation des minerais serait fait par une certaine société au nom d'un certain pays, mais les revenus ne viendraient pas qu'à ce seul pays. Comme c'est patrimoine mondial...
Il y aurait une sorte de royalty.
Il y aurait une sorte de ruissellement, dans la terminologie macronienne, il y aurait une sorte de ruissellement qui serait fait sur tous les autres pays de l'AIFM. Ce qui veut dire que même des petits pays pauvres qui n'ont pas la technicité pour faire ce type d'exploitation... peuvent être intéressés et peuvent pousser à la roue pour qu'elle arrive.
Et c'est là que tu nous disais qu'il y avait une île qui, justement, jouait ce rôle.
Alors, il y a une île dans le Pacifique, c'est l'île de Nauru, qui est une île qui a une histoire, somme toute, assez tragique, parce qu'elle avait une richesse dans son sol, à terre, très importante, en phosphate. Et ils ont exploité... Le pays a exploité son phosphate d'une façon délirante pendant quelques décennies, jusqu'au point où c'est devenu un gruyère. Quoi, Nauru, il n'y a plus de phosphate. Alors le pays a été extrêmement riche. Je crois qu'ils ont eu le deuxième PIB au monde derrière l'Arabie Saoudite. Et puis aujourd'hui, ça s'est effondré. Il n'y a plus rien à exploiter. Et donc aujourd'hui, Nauru fait partie de l'avant-garde pour dire il faut aller dans les grands fonds marins pour aller récolter les minerais. Et Nauru s'est associé avec la compagnie canadienne qui est le fer de lance de l'exploitation, du projet de l'exploitation des minerais, qui s'appelle The Metals Company.
Qui est soutenue par Trump.
Qui est derrière le décret signé par Trump, par lequel Trump veut accélérer l'exploitation des richesses minières de la grande profondeur. Décret que Trump a signé maintenant il y a 3 ou 4 mois. Décret fourre-tout, dans lequel il invite à ce que les États-Unis le fassent, à la fois dans les eaux nationales, mais aussi dans les eaux internationales, puisque rien ne les empêche finalement de le faire. Ce qui s'est passé avec Nauru, c'est que Nauru, il y a de ça 3 ans à peu près, a déclenché une sorte de compte à rebours à l'intérieur de l'AIFM en disant « Nous, on veut y aller ». Nous, Nauru, plus la société The Metals Company, on veut faire cette exploitation. si l'AIFM ne sort pas dans les deux ans
le code
minier qui donne les règles communes pour cette exploitation, eh bien on y va.
Sans code minier.
On y va sans code minier, mais comme on aura déclenché la demande d'obtention du code minier, même si le code ne sort pas, on sera pas hors la loi. Et là, on est à un moment où le code minier, il n'est pas encore sorti.
Il devait sortir dans cet excellent livre que j'ai lu, il devait sortir fin 23.
Il devait sortir à l'été 23.
Comme quoi ?
Ça a été reporté. Depuis deux ans, c'est reporté tous les ans. C'est un travail extrêmement complexe. Les juristes y travaillent d'arrache-pied. Mais le code n'est toujours pas sorti. Et là, on est à un moment où Nauru aurait pu dire « on y va », ils n'auraient pas été hors la loi. En revanche, ils ont décidé de ne pas y aller encore, d'attendre, de temporiser.
Ils temporisent, mais ils peuvent y aller demain.
Et ça, il faut quand même préciser que cette exploitation des grands fonds n'a jamais été prouvée rentable.
Tout à fait.
Ça, voilà, c'est le point, je pense.
C'est ce que j'allais dire aussi.
C'est le point
Il faut quand même dire que jusqu'à présent, ça a été une perte d'argent énorme et rien n'a été prouvé comme quoi ça pouvait marcher déjà.
Alors effectivement, on ouvrira ce chapitre-là. C'est peut-être la raison pour laquelle le Nauru n'y va pas, puis que Trump ne pousse pas plus que ça, mémé dans les flots. Mais on termine sur cet aspect en politico-juridique. Il n'en reste pas moins que sur sur cette espèce de chantage, on va dire, ou de coup de pression qu'a mis Nauru, on est dans une espèce de no man's land juridique, et puis on peut être sur un point de bascule, ça peut se faire demain.
Je pense que l'expression de point de bascule est la bonne, parce que c'est une point de bascule à tous les niveaux. Le point de bascule, c'est qu'on irait... taper dans des richesses qui sont inviolées depuis que le monde est monde, ça c'est d'une.
Donc c'est un côté sacrilège, moi, qui m'horrifie, mais bon.
Et oui, et puis il y a un côté aussi...
Ton côté théologien.
Va donner ? Parce que ça a été dit, je crois, tout à l'heure. Les scientifiques qui travaillent à mieux connaître la biodiversité de la grande profondeur, notamment via les campagnes d'exploration... Mmh. qui font l'objet d'autorisations décernées aussi par l'AIFM. C'est l'AIFM qui dit « vous avez le droit d'aller explorer telle zone ».
Il y a déjà 30 contrats qui ont été donnés d'exploration, dont deux à l'Ifremer, qui représentent la France.
Voilà.
À Clipperton et au milieu de l'Atlantique aussi.
Voilà. Et donc, ces contrats d'exploration permettent de mieux connaître cette grande profondeur et montre qu'il y a une biodiversité extraordinaire dans ces environnements qui sont... Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène. Donc, il y avait un dogme qui a duré pendant très longtemps qui consistait à dire que c'était des lieux sans vie.
Parce qu'il n'y avait pas de photosynthèse possible.
Voilà.
Et sauf qu'on s'aperçoit que la vie peut être indépendante de la photosynthèse.
On s'aperçoit que la vie a trouvé son chemin différemment. Il y a la chimiosynthèse, il y a le fait de créer de la vie à partir de matériel, de minerais. On sait que c'est foisonnant. Et donc, ce que disent les scientifiques,
c'est ça. La différence, c'est que c'est foisonnant. Il y a quelques années, on savait que ça existait, mais on présentait ça un petit peu comme une curiosité de la biodiversité, comme si c'était un petit peu anecdotique. Mais récemment, quand on dit récemment, c'est les dernières années, durant le temps où toi, tu as interviewé les scientifiques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'imaginer.
À chaque plongée, on en découvre.
C'est totalement interconnecté avec le reste du système océan.
C'est ça. Oui. Les abysses ne sont pas une sorte d'isola. Les abysses sont connectées au reste.
Et qui est lui-même connecté au climat.
Oui. En termes de pollution, Ben parlait tout à l'heure de plastique. On a trouvé des traces de plastique au fin fond de la fosse des Mariannes.
Et la pollution acoustique, on n'en parle pas tellement.
Mais la pollution acoustique, ça serait un problème aussi consécutif d'une exploitation éventuellement des minerais.
Ouais.
Parce que aujourd'hui, il y a des prototypes qui sont utilisés pour voir ce que ça donnerait. Il n'y a pas d'autorisation d'exploitation, mais il y a des essais, des tests qui sont menés. Et pour faire ces tests, des sociétés ont fait plonger des appareils qui sont d'espèces gigantesques moissonneuses-batteuses.
Ah ouais, j'ai vu des
qui vont labourer donc ouais, le
oui, donc
le,
on pourrait pas récupérer ces fameuses boules de pétanque sans générer des nuages de poussière.
Ah ben non, voilà.
Et ces poussières, si j'ai bien compris, risquent de contaminer, se répartir sur des surfaces bien énormes, et puis remonter plus ou moins en surface, aller contaminer des êtres vivants qui, eux, sont pas prêts à digérer ces sels métalliques.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a le bruit, comme dit Ben. Il y a le bruit, parce que ces moissonneuses-batteuses, elles vont faire un bruit délirant. Et le son, contrairement à ce qu'on dit, le monde du silence, etc.
Voilà. Disait Cousteau.
Voilà, il y a rien de plus faux. le son circule dans l'eau et circule dans la grande profondeur. Et il y a un exemple que je cite dans le bouquin qui m'avait été expliqué par, je crois que c'est, non, j'allais dire Séverine Martini. C'est pas Séverine Martini qui m'a parlé de ça, mais autour des sources hydrothermales. Les cheminées, ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Donc, c'est des sortes de reliefs, de structures qui ressemblent à des cheminées et d'où...
Ils se font à la jonction des plaques tectoniques.
Voilà. Ça expulse de l'eau à très grande
400
température.
Degrés, tu disais.
Oui, et de l'eau chargée en minerais qui viennent de l'écorce terrestre et qui remontent comme ça par la turbulence de l'eau et qui retombent sur les côtés. Et donc, ces cheminées, elles sont des oasis de vie. Il y a plein d'animaux qui vivent là-dessus. Et il y a notamment des crevettes qui vivent en symbiose avec des bactéries. C'est-à-dire que sans ces bactéries, les crevettes ne peuvent pas vivre. Les bactéries existent sur ces cheminées. Les crevettes naissent sur ces cheminées et au début de leur vie, sont des petites larves. Ces larves, par le mouvement de l'eau, sont expulsées, éjectées hors des cheminées. Or, pourtant, elles arrivent à retrouver leur chemin qui leur permettent de revenir à la cheminée sur laquelle elles sont réassociées aux bactéries sans lesquelles elles ne pourraient pas vivre. Et donc, les scientifiques qui sont spécialisés de ces animaux se demandent comment la larve, quels sont les signaux qui permettent à la larve de retrouver son chemin.
C'est pas la lumière, c'est pas la vue.
C'est pas la lumière, c'est pas la vue. Ben, ça pourrait être le son. C'est-à-dire que les crevettes en question, évidemment, elles n'ont pas d'oreilles, mais elles sont sensibles aux ondes. Elles seraient sensibles aux ondes sonores. Et donc c'est le bruit de chouchou, hein, si je puis dire.
Comme locomotive alors.
De la locomotive de la source hydrothermale qui leur permettrait de retrouver leur chemin vers la source. Si vous mettez la moissonneuse-batteuse qui laboure et qui fait ce bruit, le bruit qu'on imagine...
Il n'y a plus de boussole.
Il n'y a plus de boussole, voilà, il n'y a plus de boussole.
Voilà.
Ils perdent leur GPS, quoi.
Mais donc ça, c'est un exemple...
Oui, c'est comme si les oiseaux migrateurs ne savaient plus où aller, quoi.
C'est le problème. Donc, cette pollution sonore, la pollution en termes de panache de matériaux qui seraient déplacés, qui pourraient... Il y a plein d'organismes filtreurs dans ces environnements-là, dans cette biodiversité, c'est-à-dire...
Dans le plancton...
Ils absorbent l'eau, ils gardent ce qui les intéresse, qui est dans l'eau, et puis ils recrachent l'eau. Ça les encombrerait, ça les
boucherait,
ça les boucherait, comme des sacs à aspirateurs, quoi.
Donc, alors, en fait, oui, donc il y a un côté...
C'est l'idée de la boîte de Pandore.
Ouais, ou l'apprenti sorcier dans puissance 1000, quoi.
Et tu as en même temps des bienfaiteurs de l'humanité, comme un certain André Michel, qui est bioacousticien, et qui a fait, à partir des années, je crois il y a déjà 15 ans, il a fait vraiment un repérage, un système de détection qui permet aux mammifères de savoir quand il y a vraiment danger.
Oui, je crois qu'il a été primé, il a eu un prix, une bourse il y a quelques années pour ça. Il a travaillé sur la question des cétacés, qui sont d'ailleurs déjà, sans aller chercher dans les moissonneuses-batteuses, des victimes massives de la pollution sonore humaine, mais qui vient plutôt des bateaux ou des tests des militaires d'ailleurs, qui peuvent
utiliser, tester. Ne lance pas Ben sur les militaires.
Non, mais il y a eu une pétition de millions de gens récemment, donc de 2025, pour essayer de ralentir
les bateaux, pour qu'ils fassent moins de bruit, que ça rende moins fun les baleines.
Moi, j'ai trouvé ça fabuleux.
Non, mais c'est vrai.
Les tankers là, qui transportent, c'est pas le terme, mais les porte-containers. Les porte-containers font un massacre dans les requins-baleines, par exemple. Les requins-baleines qui passent du temps en surface C'est filtrer parce que les requins baleines se nourrit de krill, enfin, filtre des organismes.
Oui, c'est des requins édentés.
Des requins à fanon, enfin, je ne sais pas.
Oui, ouais, c'est des requins un peu spéciaux. Quoi.
Et donc, ils restent longtemps en surface, et quand ils croisent le porte-container, c'est le porte-container qui gagne, quoi.
Bah oui. Et bon, on ne va pas faire. Donc, les requins baleines font des migrations transocéaniques. C'est vraiment terrible pour cette espèce qui est très particulière. Mais bon, tout ça pour dire que ce qui peut nous apparaître comme des causes un petit peu anecdotiques, sans grande importance, au final se révèle comme des
vrais de drames,
ouais, la destruction massive de la vie. Donc là, ça nous ramène à cette question, comment faire pour ne pas y aller, quoi. Alors, semble-t-il que la France a pris, comme nous disait Nicole à l'instant, pris une initiative à l'UNOC pour entraîner plus de pays dans le refus de la mise en exploitation.
Et ça serait un moratoire pour à peu près 10 ans, en tout cas, non ? Qu'est-ce qui est prévu ?
C'était jusqu'à 15 ans, ce qui était proposé.
D'accord.
Alors, peut-être que Nicole... Nicole. Des recherches scientifiques, là, pour calmer un peu le monde. La France a proposé un programme de recherche pour 2030 où ils auraient vraiment des scientifiques qui feraient des efforts de connaître mieux ces communautés benthiques et épibenthiques qui ne sont pas assez connues. Et donc, il y aurait un gros effort de recherche dans les années qui viennent, au moins pour déjà connaître toutes ces espèces extraordinaires. Parce que ce qui est, enfin, moi, en tant qu'artiste aussi, je voudrais dire que c'est incroyable les couleurs qu'il y a dans la vie à ces profondeurs. Il y a des espèces qui sont rose bonbon, orange vif.
Mais à quoi ça sert parce qu'il n'y a pas de lumière?
Eh ben justement, mais c'est incroyable parce que c'est comme si c'était un monde imaginaire extrêmement coloré et incroyablement original et unique.
Et tout ça dans le noir.
Tout ça dans le noir. C'est vraiment très surprenant.
C'est un paradoxe,
effectivement.
Et ça vaut
le coup de l'étudier avant de tout détruire parce qu'il y a le problème des échanges aux sédiments. Moi, en tant que scientifique, j'ai prélevé les grands fonds marins. Quand j'étais ingénieure chez Total, on se basait pour les points zéro avant le début de la production de pétrole en offshore. On faisait des prélèvements dans les grands fonds. Et j'ai vu, moi, ce qui pêchait. Enfin, il y a des vers absolument incroyables qui nous servaient de bio-indicateurs, en fait, pour faire des études d'impact. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus parce que ces histoires d'exploiter, ils vont dire il faudra faire des études d'impact, mais c'est extrêmement difficile de faire des études d'impact sur des écosystèmes aussi inaccessibles et aussi différents de tout ce qu'on connaît.
Oui, on est carrément dans l'inconnu.
On est dans l'inconnu complet, on ne connaît pas les espèces et on va dire qu'on va être capable de faire des études d'impact. On en est absolument incapable aujourd'hui. On n'est même pas capable de classifier les espèces qui s'y trouvent. Là, 90% sont encore inconnues.
D'accord. Alors, on va peut-être laisser passer une petite pause musicale et puis on va aborder le dernier volet de l'émission sur qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais.
Vas-y, Armand.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'ai quitté ma colline que l'on appelle Garaban. Sous un soleil de plomb, où les hommes parlent en chantant et les tissus blancs sèchent au gré du vent. Adieu, je verse une larme sur le quai des souliers, sur le marchepied du wagon. Le sourire vive encore et résonne au fond de mon âme de garçon. Pour définir ce que je suis, les hommes auront sans doute un vieux dicton qui dit que les chiens ne font pas des chats, que l'occasion fait le larron. Paris m'attend, ma ville, on sait.
Attendant que le train s'éloignera, peux-tu sais, comme l'espoir des gens décès, comme l'espoir des gens décès.
Tu t'abats sec, presque rien dans les pauses. Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM 93.1 avec Olivier Lascar et Nicole King pour tout au fond des océans, de l'océan, à parler de ses richesses et puis à la fois minérales et puis biologiques, la vie totalement inconnue. On connaît plus les minéraux que la biologie, manifestement. Et puis la menace qui existe, le coup de dé qui pourrait se, dans le point de bascule auquel on est arrivé. Et la question qui se pose, c'est comment éviter que l'humanité joue son avenir, son destin sur un coup de dé de quelques boursicoteurs et puis de capital risqueurs tout à fait inconsidérés, quoi.
Bon, alors il y a la question du moratoire là qui peut être une source d'espoir, puisqu'effectivement la France a été a poussé ce projet sur lequel maintenant il y a de nombreux pays qui se sont alignés. Est-ce que moratoire,
il faut combien de pays,
est-ce que ça va tenir? Parce que moi le truc qui me trouble, c'est que cette fameuse institution internationale qui s'appelle l'AIFM, sa finalité c'est d'organiser l'exploitation. C'est vraiment, elle a été faite pour ça, quoi. Or, aujourd'hui, on l'a dit, elle n'a pas donné de permis d'exploitation, mais elle a donné des permis d'exploration. Mais les permis d'exploration sont quand même des préalables à l'exploitation. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître un environnement pour ensuite se dire on va l'exploiter ou on ne va pas l'exploiter.
Oui, mais on peut dire on ne va pas l'exploiter.
Oui, mais si... la France, qui a aujourd'hui des permis d'exploration, ces permis, elle les a pas pour toujours, quoi. D'ailleurs, c'est en 2026 que l'un de ces permis, celui de Clarion-Clipperton, doit être remis
sur le marché.
Sur le marché, en quelque sorte, quoi. Si la France dit, moi, je ne ferai pas d'exploitation, l'AIFM peut très bien décider, bah écoutez, dans ce cas-là, le permis
place aux autres.
D'exploration, il ne vous sert à rien. Donc je vais le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, aura des intentions d'aller ensuite exploiter.
Et vu la position, c'est vrai que...
Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus.
C'est très au large du Mexique.
Hein. À partir de mes lectures, qu'au sein même de cette institution internationale, il y avait eu quand même du renouveau, notamment à la direction,
oui.
Et que la nouvelle secrétaire générale de l'AIFM était beaucoup plus réticente, ou du moins n'était pas vendue aux intérêts économiques.
Alors c'est vrai que le précédent secrétaire général était extrêmement proche des grandes sociétés qui veulent faire l'exploitation. Et notamment de The Metals Company, hein, dirigé par cette sorte d'Elon Musk des abysses qui s'appelle Gérard Baron, canadien. La nouvelle semble plus proche des ONG, mais elle dirige quand même une institution dont, encore une fois, la finalité est d'organiser cette
qu'en penses-tu, Nicole?
Moi, je pense qu'il ne faut pas tout de suite parler d'exploitation. Il faut vraiment se ranger. Il faut écouter la science. Il faut écouter les scientifiques qui disent que ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas stratégique. Ce n'est pas absolument nécessaire.
Donc, toi, ce que tu dis, c'est que...
Moi, je dis qu'il faut d'abord récupérer, c'est-à-dire recycler. Et il faut réfléchir à ce qu'on fait avant de tout détruire.
Non, ça, on est d'accord.
Moi, je voudrais quand même dire qu'une fois qu'on donne accès à quelqu'un, à une compagnie ou à une activité dans un écosystème, après, c'est la curée. Après, tout le monde y va d'un seul coup.
Ah, quand la porte est ouverte, tout le monde
s'engouffre. Quand la porte est ouverte, tout le monde veut y aller. Donc, c'est maintenant que c'est très important d'empêcher que ça s'ouvre, justement.
D'accord.
C'est
donc,
vraiment
donc ça...
crucial. Ouais. Alors... Et moi, je pense qu'il faut justement contrer Trump, qui ne veut pas écouter les scientifiques, et justement rappeler l'importance de l'IUCN, des scientifiques écologues du monde entier qui sont d'accord pour dire que le moratoire est absolument indispensable aujourd'hui.
Mais aujourd'hui,
les permis d'exploration peuvent servir à connaître les écosystèmes d'abord, avant de
mais
les exploiter.
Est-ce
qu'on a un moratoire ?
Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'on est en train de parler d'un enjeu phénoménal, peut-être l'un des plus grands enjeux.
L'un des plus grands enjeux dont les gens n'entendent pas assez parler.
Voilà, voilà.
Donc,
voilà.
Il faut
c'est pour
leur
ça qu'on fait une émission.
Expliquer les enjeux. Voilà, c'est pour
donc,
ça que...
Donc, justement, comment faire pour que nos 8 milliards... Nos 8 milliards de copains d'êtres humains puissent, on va peut-être commencer par les Français, puissent être ou les francophones, ou puis tous ceux avec qui on discute, peuvent être informés de ces sujets-là. Parce que quelque part, il y a un gap, dont il y a énormément de paradoxes.
Il y a un enjeu mondial et écologique énorme, et on n'en parle pas du tout assez, et on ne l'explique pas assez. C'est-à-dire qu'il y a un énorme besoin d'explication d'écologie scientifique au grand public.
Bon,
et ça,
alors,
c'est ce que j'essaye de faire, moi.
Oui,
donc,
il faut qu'on le fasse ensemble, parce que chacun dans son petit coin, on aura l'air de crevettes perdues dans les abysses.
C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui.
On essaie de voir, Nicole aussi, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Mais ce qui
on peut déjà consommer moins. C'est-à-dire que chacun n'a pas besoin de changer son portable toutes les 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'avoir l'iPhone 16. Moi, j'ai un iPhone 8 qui marche très bien, là, celui avec qui je vous parle. Et il n'y a pas besoin de le changer tout le temps. C'est-à-dire que c'est un problème de société de consommation.
Oui,
il faut arrêter
d'acheter des
plastiques à usage unique et il faut arrêter de jeter tout à la poubelle. Il faut réparer, il faut recycler. Ouais. Avant d'aller abîmer la mer, il faut d'abord utiliser ce qu'on a déjà arrêter.
On est d'accord là-dessus, Nicole.
Par contre, il faut le rappeler.
Là où c'est intéressant, c'est de voir que eux-mêmes, parmi les acteurs économiques, il y en a quand même certains qui vont avoir la lucidité de dire peut-être que ce n'est pas rentable. Donc, profitons du moratoire.
Mais c'est ce qu'ils disent, voilà.
Ça, c'est intéressant.
Pour l'instant,
là, on n'est pas dans la morale.
Rentable.
Là, on n'est pas dans la morale sur la sobriété.
On n'a pas du tout. On a construit des bulldozers gigantesques pour aller dans les fonds marins, mais ils ne sont pas rentables. Pour le moment, on a bien vu qu'ils n'ont rien ramené. Donc, les pays qui ont investi avec The Metal Company, ils se sont retrouvés avec moins de sous qu'avant. Donc,
bon, alors, Metal Company, pourquoi ça dure encore ? Normalement, dans un bon monde, ceci étant, on a vu Google, Meta et autres qui, au début, ça ne marchait pas. Et puis, Amazon, ça ne marchait pas. Et puis, au bout de 10 ans à être subventionnés, ils ont fini par nous bouffer la laine sur le dos. Est-ce qu'on peut laisser, les choses s'organisaient comme ça, Olivier.
Bah justement, le problème, c'est que toutes ces espèces sous-marines, elles n'ont pas de voix. Il faut parler pour elles et c'est très, très, très difficile. Mais on a maintenant des si belles photos. On a des sous-marins qui permettent de montrer comme c'est magnifique tous ces écosystèmes. Et du coup, ça montre que c'est précieux. Et il y a quand même le problème des valeurs médicales de toutes ces espèces.
Là,
on a des espèces qui sont capables de faire des plastiques biodégradables dans les grands fonds.
Donc, bon.
On a trouvé des archées, des bactéries extraordinaires qui ont des capacités passionnantes pour aider à lutter contre des maladies, contre le cancer, etc.
Donc
il y a énormément de richesses. Il ne faut pas détruire tout ça.
On est d'accord. On est d'accord. Mais je crois qu'on ne va pas pouvoir finir l'inventaire des abysses. Hein, Olivier, on arrive à la fin de l'émission. Mais en tout cas, effectivement, Nicole, on te remercie. Olivier, on te remercie aussi. Peut-être le mot de la fin, puisque tu es dans le studio.
Je pense qu'il y a une nécessité de parler de ce sujet. Donc, c'est vrai que moi, je m'étonne qu'on n'en parle pas davantage.
T'en as vendu combien de ton bouquin ?
Mon éditeur est très taiseux, comme tous les éditeurs, donc je suis bien en mal de vous donner un chiffre, surtout d'actualité.
Bon, passez,
on verra si votre émission...
C'est un secret, comme les fonds marins, c'est un secret.
Voilà.
Mais c'est un sujet qui est extrêmement peu médiatisé. Hein. C'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. 11 000 mètres de profondeur, 6 000 mètres de profondeur, etc. Ouais. Le grand noir des abysses, etc.
On remercie tout le monde. Merci Armand, tu nous rappelles à l'ordre avec les horaires, mais bon, toi le sujet était tellement passionnant.
Merci, bon, c'est très important d'en parler, voilà.
Ouais, merci beaucoup Nicole, et puis on verra tout ça dans le détail. Allez, à bientôt.
Allez, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.